إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, on continue la lecture de l'épître de l'imam Mohammed ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala au sujet des préceptes pré-islamiques abolis par la religion de l'islam. Nous en sommes arrivés au 30e précepte dans lequel le shaykh rahimahullah ta'ala a dit « Al-mas'alatu thalathun wa hiya min aja'ib ayatillahi ta'ala » أنهم لما تركوا وصية الله بالاجتماع وارتكبوا ما نهى الله عنه من الافتراق صار كل حزب بما لديهم فرحين. Il dit le 30e précepte parmi les préceptes de la Jahiliya, c'est qu'il fait partie des signes d'Allah les plus surprenants que lorsqu'ils ont délaissé la recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le fait de s'unir, et qu'ils ont commis ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, qui est de se diviser. Alors, chaque groupe parmi eux s'est réjoui de ce sur quoi il était. Ainsi étaient les gens de la Jahiliya. On a vu lors du deuxième cours, et de la lecture du deuxième précepte, qu'il fait partie des préceptes des gens de la Jahiliya, la division en religion. En effet, ils ont délaissé l'union sur le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que la législation qu'il a révélée à ses messagers, alayhimus salatu wassalam. Ils ne s'y sont pas cramponnés comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a ordonné. Alors qu'est-ce qui leur est arrivé? Allah subhanahu wa ta'ala les a éprouvés par la division, la discorde, et la plus grande calamité, c'est qu'ils se sont réjouis de ce sur quoi ils étaient comme faussetés. Et ceci en réalité c'est une sanction qu'ils ont méritée à cause de leur délaissement de l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a pas de doute que si l'homme se réjouit du faux, se réjouit d'être sur une chose contraire à la vérité, et qu'il se réjouit de sa situation, alors, dans la plupart des cas, il ne délaissera pas cette chose. Contrairement à celui qui ne se réjouit pas de sa situation, qui est dans le doute à savoir s'il a emprunté la bonne voie, alors celui-ci, il se peut grandement qu'il se repente et qu'il revienne à la vérité. Quant à celui qui est apaisé de sa situation et qui s'en réjouit, alors en règle générale, celui-ci il ne change pas. Et c'est pour cela que les savants, rahimahum Allah ta'ala, ils ont dit qu'en règle générale, l'innovateur ne se repent pas. Pourquoi? Car il pense être sur la vérité. Pour lui, son innovation, c'est quelque chose de bien. Il l'a prise pour vérité. Donc, il ne va pas la délaisser. Contrairement au pécheur, celui qui tombe dans un péché, dans un des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va ressentir en lui qu'elle a commis une chose contraire à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ceci va le pousser à se remettre en question et à revenir à Allah subhanahu wa ta'ala et à se repentir. Donc la règle à retenir, comme on l'a déjà dit dans un cours précédent, c'est que toute personne qui délaisse la vérité, alors il sera inévitablement éprouvé par le suivi du faux. Celui qui délaisse l'union sur la religion, alors il va être éprouvé par la division. Et ceci est une sanction de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour toute personne qui délaisse son ordre. Il ne faut pas penser que la division en religion, ce n'est pas une chose sans gravité. Au contraire, c'est une chose très grave qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam ont sévèrement blâmé. Et ce car il y a dans la division de nombreux méfaits. Parmi ces méfaits, si tu médites sur la situation des gens qui sont divisés, des gens qui sont divergents, que ce soit concernant les affaires religieuses ou les affaires mondaines, quelle est leur situation? Tu verras qu'il y a toujours entre eux de l'animosité, il y a toujours entre eux de la haine, il y a toujours entre eux des problèmes continuels. Il se peut même qu'ils en viennent à se frapper ou à s'entretuer les uns les autres, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Quant à celui qui se soumet à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui se cramponne fermement à son ordre, qui est de s'unir sur le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tu verras qu'ils sont toujours dans la concorde. Il y a de l'amour entre eux, du soutien, de l'entraide dans le bien et la piété, car ils sont comme un seul corps. Donc le cheikh ici, il a rappuyé sur ce point, il a insisté dessus. Et il s'étonnait de la situation de ces gens. Il a mentionné que cela fait partie des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala les plus surprenants, qu'ils se réjouissent de cette situation. Wallahi, c'est une chose surprenante. Que la personne délaisse l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est de s'unir sur la religion, et qu'elle soit la cause de la division des musulmans, puis qu'après elle vienne dire « Nous vivons les meilleurs jours de notre prêche ». Comment ces jours peuvent être les meilleurs si la division s'est installée au sein des musulmans, au sein des gens de la sunna? Il y a aujourd'hui des gens qui sont plongés dans ce précepte. Il y a même un groupe de personnes qui s'affilient à la sunna et qui appellent à la division et au délaissement de l'union dans la religion. Et ils pensent être sur la vérité. Ils pensent que ceci est la fermeté sur le menhaj. Ils pensent que ceci est la salafia. Wallahi, la salafia est innocente de leurs actes, est innocente du chemin et de la voie qu'ils ont emprunté. Aujourd'hui, si tu les appelles à l'union sur la vérité et à délaisser la division, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se mettre à te dénigrer. Ils vont t'accuser de choses fausses, de choses infondées. Ils vont te rabaisser et te mépriser. Pourquoi? Car tu les as appelés à l'union sur le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Comment un appel à l'union peut-il être la cause de la division? L'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah ta'ala, il a dit dans son livre, Al-Usul al-Sitta, les six fondements. Lorsqu'il a mentionné le deuxième fondement, parmi les fondements des gens de l'islam, les fondements des gens de la sunna, qui est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné l'union sur la religion et a interdit la division dans celle-ci. Il a dit, rahimahullah, ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين. Puis la situation est devenue telle que la division dans les fondements de la religion et ses branches est considérée comme la science et la compréhension de la religion. وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. Méditez sur sa parole ici. Il dit puis l'ordre de l'union sur la religion est devenue une chose à laquelle n'appelle qu'une personne considérée comme hérétique ou folle. Subhanallah. C'est comme si le cheikh, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il a écrit ces lignes de cet épître, il vivait la situation que l'on vit aujourd'hui. Il dit l'ordre de l'union sur la religion, il est devenu tel que celui qui y appelle est considéré comme hérétique ou fou. Regardez aujourd'hui la situation de nombre de personnes qui, lorsqu'ils ont été appelés à l'union sur le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, selon la compréhension des pieux prédécesseurs, ils se sont révoltés contre les prédicateurs, contre les mashayikhs et même contre les grands savants qui appellent à cela. Et il est important de souligner que lorsque l'on appelle à l'union, cela ne veut pas dire que l'on doit s'unir avec toute personne qui s'affilie à l'islam ou qui s'affilie à la sunna. Mais ce qui est visé par cela, c'est l'union sur la croyance authentique, l'union sur le livre d'Allah, l'union sur la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et l'union sur la compréhension du livre et de la sunna, selon la compréhension des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala. Quant au fait de réunir les corps, avec des cœurs qui divergent, et des croyances diverses, comme le font les gens aux tendances sectaires. Ceux dont l'alliance et le désaveu se fait en fonction de leur leader ou en fonction de leur groupe. Alors cette union, elle ne mène à rien en réalité. C'est une union fausse, car ce n'est pas une union sur la vérité. Mais l'alliance et le désaveu en islam, ils sont seulement en fonction de la religion, en fonction de la vérité, en fonction du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ceux qui rejettent l'appel à l'union, ceux qui lorsqu'on les invite à s'unir sur le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, se révoltent, rejettent cet appel et accusent les personnes qui les appellent à cela d'avoir divisé les musulmans. Alors ceux-ci, ils se sont assimilés aux gens de la Jahiliya et on demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, de les guider et de nous en préserver. Ensuite, le Cheikh, rahimahullah ta'ala, il dit, Al-mas'alatu al-hadiyatu wa al-thalathun, wa hiya min a'jabi al-ayati aydan. Il dit le 31e précepte. Et il fait partie des signes les plus surprenants également. Mu'adatuhum ad-din alladhi intasabu ilayhi ghayat al-adawa. Le fait qu'ils ont une très grande animosité pour la religion à laquelle ils s'affilient. Ensuite, il dit rahimahullah wa mahabbatuhum din al-kuffar alladhina 'aduhum wa 'adu nabiyyahum wa fi'atuhum ghayat al-mahabba. Et le fait qu'ils aiment grandement la religion des mécréants qui se sont opposés à eux et se sont opposés à leur prophète. Kama fa'alu ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Lamma ataahum bi din Musa alayhi salam wa ittaba'u kutub as-sihr wa hiya min din ali fir'aun. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à eux avec la religion de Musa alayhi salam et que ont suivi les livres de sorcellerie alors que ceci fait partie de la religion des gens de Pharaon. Il fait donc partie des préceptes des gens de la Jahiliya qu'ils avaient de l'animosité pour la religion à laquelle ils s'affiliaient et qu'ils aimaient la religion de ceux qui s'opposaient à la leur. Je sais que ceci peut paraître contradictoire, mais méditez sur la situation des Juifs. Il est connu que les enfants d'Israël, ils étaient sur la religion de Moussa alayhi salam. Et leur ennemi c'était qui? Leur ennemi c'était Pharaon et ceux qui étaient avec lui. Pharaon, il leur infligeait des durs châtiments. Il tuait leurs fils et il maintenait leurs filles en vie. Il se servait d'eux pour les plus vils travaux. Et ce jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie son prophète Moussa alayhi salam. Alors Allah subhanahu wa ta'ala les a débarrassés de leur ennemi. Il les a honorés et il a noyé leur ennemi sous leurs yeux. Il a réjoui leurs yeux de voir leur ennemi se faire anéantir. Donc Allah subhanahu wa ta'ala les a honorés lorsqu'ils ont suivi leur messager alayhi salatu wa salam. Et la Torah qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélée à Moussa alayhi salam, il y avait dans celle-ci la description du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et l'ordre de le suivre. Toutefois, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'il ne fit pas partie de la descendance d'Israël, mais qu'il fit partie de la descendance d'Ismaïl, qui fait partie des Arabes. Alors, par orgueil et jalousie, les Juifs ont refusé de le suivre, et ils ont mécru en lui, alors qu'ils savaient que c'était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et leur mécréance en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam les a en réalité rendus mécréants en Moussa alayhi salam, ainsi qu'en la Torah, car la Torah les appelait au suivi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont donc mécru en celle-ci à cause de quoi? À cause de leur jalousie envers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ensuite? Ils ont délaissé la Torah et ils ont suivi et pris leur religion d'où? Des livres de sorcellerie, comme on l'a déjà mentionné dans un cours précédent. Et la sorcellerie, c'était la religion de qui? C'était la religion de leur ennemi, Pharaon. En effet, dans le peuple de Pharaon, la sorcellerie était très répandue. Ils ont donc délaissé la révélation qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendue sur Moussa alayhi salam. Pourquoi? Pour la sorcellerie qui était la religion de leur ennemi. Donc c'est pour cela que le Cheikh rahimahullah ta'ala, il nous dit, ceci fait partie des signes les plus surprenants. Et ça en réalité, comme on a dit, c'est un châtiment de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car toute personne qui délaisse la vérité, il sera éprouvé par le suivi du faux. Ils ont refusé de suivre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont été éprouvés par le suivi de la religion de leur ennemi qui est la sorcellerie. La religion de Pharaon. Donc de la même manière aujourd'hui, on peut voir certaines personnes affiliées à l'islam qui vont délaisser ce qui est venu dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, puis ils vont prendre leurs croyances ou les règles de leur religion, des opinions des gens, des livres de certains écrivains, de certains philosophes ou de certains penseurs, autres personnes semblables. Ils délaissent donc la vérité qui est présente dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Pour le faux et la fausseté sur laquelle sont les ennemis de la religion. De la même manière, ceux qui délaissent la voix des gens de la sunnah,
Tu les vois éprouvés par quoi? Tu les vois éprouvés par le suivi des voies déviantes et égarées des groupes, des gens de l'innovation et des passions. Celui qui se sectarise, qui se fanatise pour une personne, ou qui se fanatise pour un groupe parmi les groupes égarés, qui s'oppose au Coran et à la Sunna, alors il est éprouvé par le délaissement de la vérité et le suivi de la fausseté qui est présente chez ces groupes égarés. Il se joint à eux. Il se peut qu'une personne soit affiliée à l'islam, mais qu'en réalité, elle a une grande animosité pour l'islam et qu'elle préfère autre que la religion de l'islam. Il se peut qu'une personne soit affiliée à la sunna, mais qu'en réalité, elle cache en elle l'animosité envers la sunna. Elle délaisse la vérité, alors elle est éprouvée par le suivi du faux. Donc le musulman, il doit prendre garde à cela. Prendre garde à ne délaisser la vérité en aucun cas. Et tu dois savoir que si tu délaisses la vérité, alors tu seras inévitablement éprouvé par le suivi du faux. Et médite sur la situation de nombre de gens à notre époque. Combien de gens étaient hier du nombre des musulmans, puis sont aujourd'hui du nombre des mécréants et des ennemis de cette religion? Combien de gens étaient hier du nombre des gens affiliés à la sunna, à la voie de la vérité, et sont aujourd'hui des gens qui portent une grande animosité pour les gens de la sunna? Donc il faut prendre garde à cela. Car le délaissement du suivi de la vérité, il mènera inévitablement la personne au suivi du faux. Il ne faut pas penser que ceci se produit en un seul instant. La personne va commencer par délaisser un ordre d'Allah, puis un deuxième, puis un troisième, et ainsi de suite, pas à pas. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit « Wala tattabi'u khutuwati shaytan » et ne suivez pas les pas du diable. Car le diable, il y va pas à pas pour égarer la personne, petit à petit. Puis la personne, sans s'en rendre compte, elle passe de la sunna à l'innovation, ou pire encore, de l'islam à la mécréance, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver et de raffermir nos cœurs sur sa religion. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala, il a abordé une question très importante. Il a dit rahimahullah, al-mas'alatu thaniyatu wa thalathun, kufruhum bil haqq idha kana ma'a man la yahwunahu. Le 32e précepte, c'est le fait qu'il mécroyait en la vérité si elle se trouvait avec une personne qu'elle n'aimait pas. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. Les juifs disent, les chrétiens ne tiennent sur rien. Et les chrétiens disent, les juifs ne tiennent sur rien. Donc ce précepte, c'est un des préceptes les plus dangereux pouvant mener la personne à l'égarement. C'est le fait que les gens de la Jahiliya, si la vérité était détenue par une personne qu'ils n'aimaient pas, une personne qu'ils n'appréciaient pas, alors ils rejetaient la vérité. Pourquoi? Simplement parce qu'ils avaient de la répulsion pour cette personne. Alors étant donné que c'est cette personne qui est venue avec cette vérité, ils délaissent la vérité car ils n'aiment pas cette personne. Et qu'est-ce qui incombe au musulman? Le musulman, il lui incombe d'accepter la vérité d'où qu'elle vienne. Car le suivi de la vérité, c'est la priorité du croyant. D'où qu'elle lui vienne, il l'accepte, il la suit. Qu'elle vienne de son ami, ou qu'elle vienne de son ennemi, qu'elle vienne d'une personne qu'il aime, ou qu'elle vienne d'une personne qu'il déteste. Pourquoi? Car le musulman, il sait que le suivi de la vérité est une chose qui lui incombe. Quant au fait de n'accepter la vérité, de n'accepter le conseil, que s'il vient d'une personne que tu aimes, une personne que tu apprécies, mais lorsque la vérité te vient, ou lorsqu'un conseil te vient d'une personne que tu n'apprécies pas, alors tu le rejettes. Ceci fait partie de la voie des gens de la Jahiliya. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné au sujet des juifs et des chrétiens. Les juifs et les chrétiens faisaient partie des gens du livre. Ils avaient chacun une certaine science. Mais les juifs, ils rejetaient la vérité que détenaient les chrétiens. Et les chrétiens, ils rejetaient la vérité que détenaient les juifs. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans le verset que l'on vient de lire. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. Les juifs ont dit, les chrétiens ne tiennent sur rien. Et les chrétiens ont dit, les juifs ne tiennent sur rien. Qu'est-ce qui les a poussés à délaisser la vérité que détenaient les autres? Ce qui les a poussés à cela, c'est le suivi des passions. En effet, les Yahoud, les juifs, ils détestaient les chrétiens. Donc, ils ont rejeté toute vérité que détenaient les chrétiens. Et les chrétiens, Il détestait les Juifs. Alors, il rejetait la vérité que détenaient les Juifs. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit ensuite, Wahum yatlun al-kitab. Alors qu'ils lisent le livre. C'est-à-dire, alors qu'ils lisent le livre, qui leur ordonne d'accepter la vérité. Ensuite, il dit subhanahu wa ta'ala, Kadhalika qala alladhina la ya'lamuna mithla qawlihim. De même, ceux qui ne savent rien tiennent des propos semblables aux leurs. Ceux qui n'avaient pas de livre parmi les Arabes, ils ont également suivi cette voie. Chaque groupe rejetait ce que détenait l'autre groupe. Ils se taxaient de mécréance les uns les autres et ils rejetaient la vérité qui était chez l'autre. Donc qu'est-ce qu'on tire de leçon de cela? On tire comme leçon qu'il est obligatoire pour le musulman de s'écarter de la voie des juifs et des chrétiens, qui est le fait de mécroire en la vérité si elle est détenue par une personne que tu n'aimes pas. Donc la haine pour une personne, elle ne doit pas te pousser à refuser ou à rejeter la vérité que cette personne détient. Et ceci est présent aujourd'hui. Il y a des personnes, si une vérité leur est exposée par quelqu'un qu'ils n'apprécient pas, quelqu'un qui ne fait pas partie de leur groupe, quelqu'un qui n'a pas accepté de les suivre sur leur voie, alors celui-ci vient et expose une vérité, démontre par exemple qu'ils se sont trompés sur ce point, que sur tel ou tel point, ils se sont opposés au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se sont opposés à un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors ils vont le rejeter. Pourquoi? Car c'est toi qui es venu avec et ils ne t'aiment pas. Si cette chose avait été soutenue par une personne de leur camp, une personne qu'ils aiment, une personne qu'ils apprécient, alors ils l'auraient acceptée soutenue. Mais étant donné qu'elle leur a été présentée par une personne qu'ils n'apprécient pas, qui n'est pas de leur camp, qui n'est pas de leur avis, qui n'est pas de leur groupe, alors ils rejettent cette vérité. Pourquoi? Simplement parce qu'ils n'aiment pas la personne. Donc le musulman, il doit savoir qu'il est obligatoire pour lui d'accepter la vérité, même si elle lui vient d'une personne qu'il n'aime pas. Et les animosités personnelles, ainsi que les passions de l'âme, ne doivent pas être une cause t'empêchant d'accepter la vérité. Et on a des exemples de cela dans la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Regardez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'un juif est venu à lui, il lui a adressé un reproche. Il lui a dit, vous faites du shirk, vous donnez des égaux, des associés à Allah. Vous dites, Masha Allah, wa shit. C'est comme Allah veut et comme tu veux. Et vous dites également, wal Ka'ba. C'est-à-dire, vous jurez par la Ka'ba. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait? Est-ce qu'il a dit, tu es un juif, je rejette cette chose, je n'accepte pas ce reproche? Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné à ses compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, de dire, Masha Allah, thumma shit. C'est comme Allah veut, puis comme tu veux, et non pas et comme tu veux. Et il leur a dit que lorsqu'ils veulent jurer, au lieu de dire wal Ka'ba, par la Ka'ba, qu'ils disent wa Rabbil Ka'ba, par le Seigneur de la Ka'ba. Donc ceci sont des choses qui relèvent du polythéisme mineur. Le fait de dire Masha Allah, wa shit. C'est comme Allah veut et comme tu veux, et le fait de jurer par autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ce juif, il est donc venu adresser ce reproche, car il avait observé certains parmi les musulmans qui prononçaient ces paroles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a accepté ce reproche et il a orienté ses compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, vers la voie juste, vers la vérité à suivre. Aujourd'hui, si tu viens adresser un reproche à une personne, sous prétexte qu'il ne t'aime pas, ne va pas accepter ce reproche, même si ce reproche est fondé et qu'il est basé sur les textes du Coran et de la Sunna. Et ceci est une erreur. Ce n'est pas comme cela que se comportait notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le musulman, il est obligatoire pour lui d'accepter la vérité et de ne pas la rejeter à cause d'animosité personnelle ou à cause des sentiments, à cause des choses qu'il a en lui-même, ou pire encore, à cause des rumeurs qui sont propagés sur certaines personnes parmi les gens de la vérité. Car cela, c'est très présent aujourd'hui. Il y a des gens qui lancent des rumeurs, qui propagent des faussetés au sujet de certaines personnes parmi les gens de la vérité. Ils accusent des mashayikh, des étudiants en sciences, des prédicateurs, de choses fausses, de choses infondées. Alors ensuite, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ces étudiants, ces mashayikh, ces prédicateurs, ils exposent la vérité sur un sujet, ils disent non, on rejette cela. Ya akhi, regarde ce que l'on t'a exposé. Regarde ce à quoi on t'appelle. Est-ce que ceci est conforme au texte du Coran et de la Sunna, ou est-ce que cela s'y oppose? Si cela est conforme au texte du Coran et de la Sunna, tu es obligé de l'accepter, même si cela vient d'un mécréant. Pour donner un exemple concret, si aujourd'hui, il y a certains parmi les musulmans qui, après Salat al-Aïcha, se regroupent devant la mosquée dans la rue, parlent à haute voix, font du bruit ou autre chose nuisible, et qu'une personne parmi les mécréants, qui n'est pas musulmane, juive, chrétien ou autre, peu importe, elle se rend vers le responsable de cette mosquée et lui demande de faire cesser cela, et lui dit cela nuit au voisinage. Est-ce que le responsable de la mosquée, il doit dire « Ah non, tu n'es pas musulman, je n'accepte pas ce conseil de ta part. » Il est venu avec une vérité ou avec une fausseté? Il est venu avec une vérité. Il est obligatoire pour nous de l'accepter. On accepte cette vérité et on la met en pratique, car elle est conforme à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné. Et il en est ainsi dans tous les domaines de la religion. Si une personne te conseille, t'expose une vérité, et que ceci est conforme à ce qui est venu dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, il est obligatoire pour toi de l'accepter. Et tu ne dois pas la rejeter sous prétexte que celui qui l'a prononcé, que celui qui t'a conseillé, c'est une personne que tu n'aimes pas. Même si c'est un innovateur qui te fait un reproche et que ce reproche est justifié, que c'est un reproche fondé, il est obligatoire pour toi d'accepter ce reproche et de te corriger. Toutefois, attention, ceci ne veut pas dire que l'on va aller chercher la vérité de partout et auprès de n'importe qui. On a fait un rappel hier au sujet du fait que le musulman, il doit prendre garde à ne pas prendre la science de toute personne qui parle au sujet de l'islam, de toute personne qui se met en avant, et de tout inconnu. Naam, la vérité, tu ne la recherches qu'auprès des gens de la vérité. Mais si celle-ci, elle vient à toi, qu'une personne t'adresse un reproche, qu'une personne t'adresse un conseil, une fois que tu en as eu connaissance, si ceci est conforme à la vérité, au texte du livre d'Allah et de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors tu es obligé de l'accepter. Mais à la base, tu ne vas pas la rechercher auprès d'eux. Tu ne vas pas rechercher la vérité auprès des mécréants ou auprès des gens de l'innovation. Ceci est interdit. La science, tu ne la prends que des gens de la sunna, des gens de la vérité. Mais si elle te vient d'une autre personne et que c'est une vérité, tu es obligé de l'accepter. Et ceci, comme je vous l'ai dit, c'est un point très important. Car beaucoup de personnes s'égarent à cause de leurs sentiments, de leurs animosités personnelles. Sous prétexte qu'ils n'aiment pas une personne, alors ils vont rejeter la vérité avec laquelle ils viennent. On voit même des gens aujourd'hui qui, lorsque des dissensions se produisent, ils vont choisir entre guillemets leur camp. Comment? En regardant où sont les personnes qu'ils aiment. Ah, celui-ci, je l'aime bien, donc je vais dans ce sens. Celui-là, je ne l'aime pas, peu importe ce qu'il dit, je rejette toutes ses paroles, tout ce à quoi il appelle. Pourquoi? Parce que je ne l'aime pas. Et ceci est une grave erreur. La personne, elle doit être objective. Tu dois faire preuve d'objectivité dans tes choix. Être sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala. Regarder ce qui est conforme à son livre, ce qui est conforme à la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, et de forcer ton âme à l'accepter, même si ceci provient d'une personne que tu n'apprécies pas. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala, il a dit « Al-mas'alatu thalithatu wa thalathun » إنكارهم ما أقروا أنه من دينهم كما فعلوا في حج البيت فقال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. Le 33e précepte, c'est le fait qu'ils ont rejeté et condamné ce qu'ils ont reconnu comme faisant partie de la religion. Il dit, rahimahullah, comme ils l'ont fait au sujet du pèlerinage de la maison, sujet du pèlerinage de la Mecque. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ce sujet, selon le sens rapproché, « Qui donc aura en aversion la religion d'Ibrahim, si ce n'est celui qui sème son âme dans la sottise ?» Donc les juifs, comme on l'a vu, ils prétendent être sur la religion d'Ibrahim alayhi salam. Ils prétendent suivre Ibrahim alayhi salam. Pourtant, lorsque la Qibla, la direction de la prière, elle a été changée et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux musulmans de prier en direction de la Kaaba, cette Kaaba qui a été construite et bâtie par Ibrahim alayhi salam, alors ils ont sévèrement condamné cela. Ils l'ont réprouvé. Ils n'ont pas accepté cela, wal'iyadu billah. Et ce, car ils ne reconnaissent pas la Kaaba. Ils ne lui portent aucune considération. De la même manière, ils ne reconnaissent pas le pèlerinage, alors que ceci fait partie de la religion d'Ibrahim alayhi salam. Ils rejettent le fait de s'orienter vers la Kaaba. alors qu'en réalité, ils savent que ceci est la vérité. Ils savent que la Kaaba, c'était la Qibla d'Ibrahim, alayhi salam. Ils savent que c'est Ibrahim, alayhi salam, qui a bâti cette maison. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلِ. Et quand Ibrahim et Ismaïl élevaient les fondations de la maison. Donc la Kaaba, elle a été construite par Ibrahim, alayhi salam, par ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'était sa Qibla. Mais les Juifs, ils ont rejeté cela. Ils ont rejeté le pèlerinage, alors que ceci fait partie de la religion d'Ibrahim, alayhi salam. Et malgré cela, ils prétendent être sur la religion d'Ibrahim, et être des suiveurs d'Ibrahim, alayhi salam. Et qu'est-ce qui les a poussés à rejeter cela? À rejeter le pèlerinage, à rejeter l'orientation vers la Kaaba. Ce qui les a poussés à cela, c'est leur haine envers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc on voit que cela vient en complément du point précédent. La haine et la jalousie envers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam les ont poussés à rejeter la vérité. Et à rejeter ce qu'ils savent que cela fait en réalité partie de leur religion, comme l'orientation vers la Qibla et le pèlerinage à la Mecque qui font partie de la religion d'Ibrahim alayhi salam. Donc comment peuvent-ils s'affilier à Ibrahim alayhi salam alors qu'ils rejettent des choses qui font partie des rites les plus immenses de sa religion? Il n'y a pas de doute que ceci est une contradiction évidente. Et de la même manière, ceux aujourd'hui qui s'affilient à l'islam, qui prétendent être des suiveurs de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais qui refusent son suivi, et qui refusent et s'opposent à la base de la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le fait de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ceux qui disent, moi je suis musulman, puis ensuite, il va se frotter aux tombes, rechercher la bénédiction, invoquer les morts, faire le tawaf autour des tombes, et ainsi de suite, parmi les choses relevant du polythéisme majeur. Si tu attires leur attention sur cela, que tu leur dis que ceci est du polythéisme, que cela s'oppose à la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ne tiennent pas compte de cela et ils persistent dans leur égarement. Donc il n'y a pas de doute que ceci est une contradiction évidente. S'affilient à l'islam, ils font une chose qui s'oppose clairement au message fondamental de l'islam. Donc le musulman, il doit prendre garde à cela, à ne pas rejeter quoi que ce soit faisant partie de la religion. À partir du moment où tu dis « Ashhadu an la ilaha illallah », tu dois comprendre ce que cette parole implique. Tu dois comprendre que cela implique que tu voues un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala et que tu ne lui donnes aucun associé dans l'adoration. Que toutes tes œuvres doivent être vouées exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque tu dis « Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah », tu dois comprendre que cette parole, elle exige de toi que tu te conformes dans ta manière de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala à la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, et que tu ne rejettes rien de sa sunna. Et ceci sont les deux conditions d'acceptation des œuvres: la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala et la conformité à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui et on continuera la semaine prochaine inshallah ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.